Voici les titres du journal.
Améliorer l'accès à l'eau dans les pays défavorisés, c'est le souhait du CIEG, le service intercommunal de gestion. Un plan d'investissement de 750 000 francs sur 5 ans a été adopté en juin dernier. Le canton de Vaud a fait le point sur son plan cantonal de gestion des micropolluants. Si la qualité des rivières s'est améliorée, il reste encore du travail concernant les stations d'épuration. Et retrouvez ce midi un coup de projecteur sur les partisans de l'initiative soumise au peuple le 26 septembre en faveur d'une taxation plus élevée des gains de fortune. En cyclisme, le mythique Mont Ventoux figure au programme de la 11e étape aujourd'hui sur le Tour de France. Et en natation, les championnats d'Europe juniors ont un léger accent chablaisien cette semaine à Rome.
Un temps sec pour ce début d'après-midi avant le retour des précipitations orageuses en soirée. Pour demain, le temps sera le plus souvent très nuageux avec des précipitations parfois orageuses. La météo à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Valérie Blom. Bonjour Valérie.
Bonjour. Le CIEG, service intercommunal de gestion, va améliorer l'accès à l'eau dans les pays défavorisés. Le service, qui s'occupe notamment du traitement des eaux usées de la Riviera, a adopté un plan d'investissement en juin. Son montant, 750 000 francs répartis sur 5 ans, il permettra de financer une série d'actions de solidarité avec le concours de l'organisation Helvetas. Tour d'horizon des différents lieux envisagés avec le directeur du CIEG, Caleb Walter.
Il y a des projets à nouveau au Bénin, mais dans d'autres régions d'Afrique, par exemple au sud du Mali, on a également là des projets qui ont été proposés par Helvetas qui nous intéressent. Et puis on souhaite aussi aller cette fois sur le continent américain où il y a un projet au Honduras qui nous semble intéressant. Et chaque fois ces projets, c'est autour des différents thèmes que j'évoquais avant, donc la distribution de l'eau, mais aussi l'assainissement des eaux usées. Et puis, le maître mot pour nous, justement, c'est que notre soutien puisse être durable. On ne veut pas simplement dire, voilà, on a construit deux puits et puis on part, mais vraiment avoir du personnel sur place formé pour l'entretien.
Notons encore que ce n'est pas la première fois que le CIEG œuvre ainsi en faveur des pays défavorisés. Entre 2009 et 2015, le service a déjà injecté 1,4 million de francs dans des projets liés à la distribution de l'eau au Bénin en Afrique, un sujet réalisé par Thierry Nicolet. Vevey souhaite encourager l'utilisation de vaisselles réutilisables lors de manifestations sur son territoire. Elle rappelle qu'il est obligatoire depuis le 1er janvier 2019 d'utiliser des gobelets réutilisables pour les événements réunissant plus de 500 personnes. Dans le but de réduire les déchets urbains et pour soutenir les organisateurs, la ville a décidé de subventionner cette année et l'an prochain le coût de location de la vaisselle à hauteur de 50%. Plus de 80% du personnel de santé vaudois est vacciné contre le Covid-19. C'est ce que révèle aujourd'hui un sondage d'Unisanté, le centre universitaire de médecine générale et de santé publique à Lausanne. Mené en juin auprès de son personnel soignant et administratif, il indique que la vaccination est particulièrement élevée chez les collaborateurs en contact direct avec les patients. Le sondage sera élargi dans les prochains jours à une dizaine d'établissements hospitaliers du canton de Vaud. Le Conseil d'État vaudois justifie les opérations d'évacuation de la ZAD du Mormont. Il répond à plusieurs interpellations parlementaires ainsi qu'à une résolution adoptée par le Grand Conseil au sujet de l'occupation de la colline. Il précise qu'il a agi selon ses prérogatives et les principes que lui offre le cadre légal en vigueur. Par ailleurs, il relève le caractère proportionné des opérations d'évacuation faisant suite à une décision de justice. Il rend également public les rapports de la police cantonale et des observateurs délégués sur le terrain. Le canton de Vaud fait le point sur son plan cantonal micropolluant. Plusieurs analyses ont été menées dans les steppes et rivières vaudoises en 2014 et 2019. Les résultats ont montré que les traitements actuels n'éliminent en moyenne que 15,4% des micropolluants urbains. Mais une station d'épuration fait exception à la règle. Panta, en 2018, un dispositif avancé pour filtrer ces substances toxiques a été mis en service. La réduction des micropolluants urbains est passée de 18% à 90%. Béatrice Métro, conseillère d'État en charge du DES.
Alors, la STEP de Panta, depuis 2018, a été la première à mettre en place toute une organisation, toute une infrastructure pour lutter contre les micropolluants. Elle a fait ça avec du charbon actif qui filtre les eaux. Le résultat, c'est qu'au sorti de la STEP de Panta, on a grosso modo 50% de baisse de micropolluants. À côté de ça, il y a le raccordement de la STEP de Bussigny sur la ville de Lausanne, également avec un procédé anti-micropolluant. Résultat, dans la Venoge, on a une baisse de 60% de micropolluants dans la Venoge. Donc c'est bon pour les poissons, c'est bon pour la flore et au fond, c'est bon pour l'environnement de manière générale.
Des propos recueillis par notre confrère de LFM. L'objectif du canton est de moderniser le parc des stations d'épuration d'ici 2040, ainsi que constituer 16 pôles régionaux pouvant traiter les micropolluants urbains. Elisabeth Lejean et Pierre-Olivier Vollet ont été nommés au poste de co-rédactrice et co-rédacteur en chef de l'actualité TV à la RTS. En choisissant cette candidature commune, la chaîne indique aujourd'hui vouloir proposer un nouveau mode de management partagé à la tête de ses rédactions phares. Le duo assurera la conduite de la rédaction de l'actualité TV et aura la responsabilité des émissions associées sur les journaux d'actualité, couleurs locales, TTC, mise au point, infrarouge et géopolitis. Il pilotera aussi le développement éditorial de l'offre vidéo sur les présences numériques de RTS Info. Les citoyens suisses voteront le 26 septembre prochain sur l'initiative 99%. Les partisans de ce texte des jeunes socialistes ont lancé leur campagne à Berne juste avant les vacances. Les initiants demandent de taxer davantage les revenus de la fortune qui dépassent 100 000 francs par année. Pourquoi avoir intitulé l'initiative 99%? Les explications du vice-président des jeunes socialistes Thomas Bruchet.
Le 1% le plus riche de la population aujourd'hui possède 43% des richesses de talents suisses et ne cesse de s'enrichir, alors que le nombre de personnes pauvres en Suisse ne cesse d'augmenter. On a aujourd'hui 735 000 personnes pauvres, c'est presque 10% de la population suisse. Et ce 1% s'enrichit massivement grâce à un mécanisme, ce sont les revenus du capital. C'est-à-dire qu'il place son argent et qu'ensuite son argent lui apporte des revenus, que ce soit des dividendes, des intérêts, des revenus locatifs ou encore des gains en capitaux. Et c'est ce mécanisme-là que nous voulons enrayer.
La taxation fiscale augmentée de l'initiative pourrait reporter jusqu'à 10 milliards de francs par année. Lors du débat parlementaire, la gauche a été bien seule à soutenir le texte. Aucun autre élu n'a soutenu cette vieille recette à la Robin des Bois consistant à prendre aux riches pour redistribuer aux pauvres. Ce qui ne déstabilise pas celle qui a porté l'initiative 99%, la conseillère nationale socialiste bernoise Tamara Funicello.
C'est pas la question de prendre aux plus riches, parce qu'on doit en fait prendre en compte que l'argent que les plus riches ont, ça vient pas de nulle part, ça vient du travail des 99% en fait. Et donc c'est toujours un peu la question qui reçoit combien de l'argent qui a été produit entre guillemets. Et au moment de cet gâteau qu'on a, les riches, ils prennent beaucoup et le reste de la population, ils ne reçoivent pas assez. Donc ce n'est pas une discussion de prendre aux plus riches, mais c'est vraiment une discussion de dire bon, on a ce gâteau, comment on va le partager? Et c'est ça qu'on fait.
Des propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Il y a deux objets au programme de la votation fédérale du 26 septembre. L'initiative des jeunes socialistes 99% et le mariage pour tous combattu par référendum. À l'étranger, l'attaque dont était victime un journaliste néerlandais spécialisé dans les affaires criminelles est un crime contre le journalisme et une attaque contre nos valeurs, a dénoncé aujourd'hui le président du Conseil européen Charles Michel. Le journaliste néerlandais spécialisé dans les affaires criminelles Peter R. de Vries a été grièvement blessé par balle hier soir à Amsterdam, une attaque dénoncée par le premier ministre néerlandais. La pandémie a été plus meurtrière en Europe la semaine dernière pour la première fois en 3 mois. Le nombre de victimes a augmenté de 6% en une semaine. Une situation liée au variant Delta, présent désormais dans plus de 100 pays et territoires. Selon des données de l'Organisation mondiale de la santé publiées hier soir à Genève et qui portent jusqu'à dimanche matin, plus de 6900 personnes ont succombé la semaine dernière en Europe. La plupart des régions font face à une extension des nouvelles victimes, alors même que le nombre a continué de diminuer dans le monde, de 7% à plus de 53 000, notamment grâce au continent américain. Les talibans ont lancé aujourd'hui leur première offensive contre une capitale provinciale en Afghanistan depuis le début en mai de leur campagne tout azimut contre les forces afghanes en attaquant Galai-Aina, capitale de la province de Bagdis au nord-ouest, rapportaient les autorités locales. Cette attaque se tenait alors que des délégations afghanes étaient réunies au ministère iranien des Affaires étrangères afin de prendre des décisions difficiles pour le pays alors que les talibans profitent du retrait des troupes américaines. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a menacé aujourd'hui de lancer une procédure d'infraction contre la Hongrie si elle ne revenait pas sur sa loi accusée de discriminer les personnes LGBT qui doit entrer en vigueur demain. Bruxelles peut ouvrir une procédure d'infraction pour violation du droit européen qui peut mener à une saisie de la Cour de justice de l'UE et à des sanctions. Après avoir frappé les Caraïbes, la tempête Elsa s'est renforcée en ouragan et se dirigeait hier vers les côtes de la Floride. La tempête charrie avec elle des torrents de pluie et quelques tornades sont possibles selon les prévisionnistes de Floride. Dans la partie nord-ouest de la péninsule, l'eau pourrait monter jusqu'à 1,5 mètre en raison des vents. À l'occasion des 6 mois de l'assaut sur le Capitole de Washington par des partisans de Donald Trump, Joe Biden a appelé le Congrès à enquêter avec courage sur cette violente attaque. Le président américain a dénoncé une crise existentielle pour la démocratie. Pour lui, il est ainsi nécessaire de déterminer ce qui s'est passé pour que nous puissions nous en souvenir. En cyclisme, le peloton du Tour de France va s'attaquer aujourd'hui à une ascension mythique. Arrivé en Provence, les coureurs n'échapperont pas au célèbre Mont Ventoux. Et cette année, il y aura même une double ration, puisqu'ils graviront par 2 fois ce sommet qui culmine à plus de 1900 mètres d'altitude. Les favoris pour la victoire finale sur cette grande boucle risquent donc d'être à nouveau de sortie. Ce sera notamment le cas du Français David Godou, qui pourra encore compter sur le travail de son coéquipier Stéphane Kung. Le rouleur turgovien est un soutien de taille, en particulier dans les parties de plaine. Sur la 2e étape disputée hier, il a ainsi été précieux pour son leader. Les précisions de Stéphane Kung.
Le départ, il était tranquille, mais on s'attendait d'avoir du vent à la fin dans la vallée là. Et puis ça a commencé à accélérer là dans la petite poste à 45 km de l'arrivée. Mais Bike Exchange ont tout mis en haut, ils n'avaient plus personne, donc ça s'est calmé. Et puis avec David, on est resté aux avant-postes pour ne pas se faire piéger. Et puis une fois, on a eu un peu chaud parce qu'on a pris un rond-point du mauvais côté, mais bon, c'était pas évident. Mais après, on était bien dedans et on était tout le temps à l'avant, donc c'est important de rester devant parce que ouais, il y avait des moments où ça avait vraiment, vraiment étiré. Et donc, je crois finalement, on s'en sort bien.
À noter que le départ de cette 11e étape du Tour de France, longue de 199 km entre Sorgues et Malocène, a été donné sur les coups de midi. Le peloton devra notamment gravir par 2 fois le Mont Ventoux. En natation, le Chablais est bien représenté au championnat d'Europe junior cette semaine. 2 athlètes de la région ont fait le voyage à Rome pour disputer leur premier grand événement sur la scène internationale. Il s'agit du Colombien roux Solano Berholzer, 16 ans, et de la Lesnoude Havana Cueto Cabrera, 14 ans. Depuis hier, les 2 membres du Vevey Natation Riviera découvrent cette compétition. Ils ont ainsi des ambitions mesurées. Pour Solano Berholzer, le but est surtout de pouvoir profiter de se frotter au meilleur dans sa catégorie d'âge.
Que ça va être important de regarder les autres et savoir comment les autres nagent pour essayer de gagner de l'expérience et pour être plus rapide pour les suites les années à venir.
Quels sont vos objectifs pour vous à Rome? Est-ce que c'est prendre de l'expérience mais quand même essayer de d'accrocher quand même un bon résultat?
Oui, prendre l'expérience et essayer d'améliorer mes chronos pour être plus rapide pour les années à venir. Je me sens un peu stressé, mais j'essaie vraiment d'enlever la pression et juste profiter de l'événement et vraiment me concentrer sur mes courses.
Des propos recueillis par Ludovic Turin. Pour Solano Berholzer et Havana Cueto Cabrera, les championnats d'Europe junior de natation ont donc commencé hier et se poursuivront jusqu'à dimanche à Rome. Et si l'Italie ira en finale après avoir battu l'Espagne hier soir à l'Euro, les Suisses savourent encore ce championnat, dont un supporter jurassien qui pourrait voir son destin se transformer. On ne présente plus Luca Lutenbach. Sa photo a fait le tour de la planète après le match France-Suisse lundi passé. Alors que le Delémontain n'avait pas de compte sur les réseaux sociaux, il a profité de ce buzz pour s'y insérer. Chamboulé d'abord par cette médiatisation inattendue, l'homme de 28 ans a finalement décidé d'en tirer profit. Cette sortie soudaine de l'anonymat n'est cependant pas facile à comprendre pour lui, Luca Lutenbach.
C'est difficile à comprendre pour moi qui n'étais pas sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je pense que j'ai un peu retranscrit les émotions de tous les Suisses lors de ce match historique. C'est un match qui représentait énormément pour moi. Ça fait tellement d'années qu'on attendait un grand exploit de cette équipe nationale. Du coup, ça c'est le côté positif. Je suis content d'avoir retranscrit un peu les émotions de la population lors de ce moment.
Donc c'est vraiment votre côté humain, en fait, le côté émotion qui a fait que finalement votre tête a fait le tour du monde.
Peut-être, en tout cas c'est un peu les retours que j'ai eu, un peu ce côté authentique. Voilà. Maintenant avec les réseaux sociaux, peut-être que les gens ils essaient de se créer une personnalité qui n'a pas vraiment la leur lors de ce genre de grand événement. Puis moi, je vais juste là par passion, puis juste parce que c'est ce que j'aime, quoi.
Et puis après coup, vous avez un petit peu joué de tout ça en demandant à Suisse un billet pour Saint-Pétersbourg. Quelle était la logique là derrière ?
Oui, en fait, l'histoire, c'est que c'est un euro particulier avec énormément de trajets pour moi. À Bucarest, je me suis dit, si on va en quart de finale, malheureusement, au niveau des vols, c'était juste trop cher pour aller à Saint-Pétersbourg. Donc, j'ai décidé de surfer un peu sur ce buzz pour essayer d'être sponsorisé par Swiss, quoi, parce qu'a fonctionné.
Il y a d'autres marques qui vous ont approché après coup, justement ?
Alors oui, y a aussi d'autres marques qui ont essayé de profiter de l'image de ce buzz. Après, il n'y a pas vraiment eu de collaboration. Typiquement, Red Bull, ils m'ont juste envoyé des canettes, vernis, des biscuits. Voilà, c'était juste parce que je les avais fait rire ou parce qu'ils trouvaient que ce que j'avais fait était sympa, puis ils voulaient juste me remercier.
Mais sur le long terme, vous pensez que justement, il y a quelque chose à saisir pour construire quelque chose ?
En tout cas, pas d'un point de vue financier. Ce que je vais essayer de faire, c'est justement de monter un site internet pour vendre un peu des t-shirts par rapport à ce match, par rapport à ce buzz. Puis les reverser une association pour la promotion de la jeunesse puis du sport. Voilà, je me rends compte, comme vous l'avez dit, j'ai eu beaucoup de chance dans cette situation. Donc si je peux un peu redonner dans un projet qui me tient à cœur, ce serait cool. Puis aussi peut-être développer d'autres éléments comme le journaliste sportif. Ça fait quelques temps que je suis déjà actif, soit au quotidien jurassien, soit sur des sites internet. Donc si je peux développer ça, puis utiliser cet événement comme tremplin pour ce genre de choses, c'est sûr que je vais essayer de le développer.
Et puis là, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que je pense que l'attention des gens retombe très très vite et puis il faut les garder captifs. Vous avez mis en place une stratégie, qu'est-ce qui va se passer autour de vous ?
C'est clair qu'il faut être sûr que ma vie ne va pas changer fondamentalement. J'ai pas envie de changer de travail ou que ma vie change du tout au tout. Mais ce qu'on va essayer de faire avec mon équipe, c'est de garder ce compte Instagram qu'on a créé pour moi quand même actif en postant des images, puis justement en s'approchant de certaines associations ou certaines organisations proches de mes passions, donc le foot et le sport, pour essayer de développer cette page et puis la garder vivante, quoi.
Et puis, si vous deviez vous présenter aux Jurassiens, aux Romands, plutôt comme le Jurassien que vous êtes, plutôt que le fan de foot ?
Je suis quelqu'un qui aime beaucoup son pays puis beaucoup sa région, donc je me réjouis de retourner, je suis déjà de retour au Jura, mais de retrouver les Jurassiens et puis de célébrer ce bel été avec eux, avec le retour sur les terrasses, etc. Donc je me réjouis beaucoup de revenir dans ma région puis de revoir les gens, les gens que j'aime, quoi.
Lucas Lutenbar au micro de notre consoeur de BNJ. Et les restrictions sanitaires autour des événements olympiques se poursuivent à Tokyo. Les autorités locales ont annoncé aujourd'hui l'annulation du relais de la flamme olympique sur la voie publique dans la capitale, alors que les Jeux doivent commencer ce vendredi. Au lieu de relais sur la voie publique, de petites cérémonies d'allumage de la flamme olympique seront organisées à différents endroits de la capitale sans spectateurs, ont ajouté les autorités de Tokyo dans un communiqué, en invitant les habitants à les regarder en streaming confortablement depuis chez eux.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec le Swiss Vapeur Park au Bouvray, un moment d'évasion pour tous, ouvert tous les jours de 10h à 18h. SwissVapeur.ch.
Le temps est sec et quelques éclaircies sont visibles, notamment sur la rivière et la plaine du Chablais. Il faudra en profiter puisque Météo Suisse nous annonce le retour des précipitations orageuses en soirée. Il va faire au maximum 23 degrés en plaine, 19 à 1000 mètres. Et puis pour demain, Météo Suisse nous annonce un temps le plus souvent très nuageux avec des précipitations parfois orageuses. Demain, le mercure passera de 14 à 20 degrés en plaine et de 11 à 15 degrés à 1000 mètres. La météo à 6 jours, radiochablais.ch.